Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être encore fidèle au rendez-vous de Mélomanie pour ce premier numéro 2019 du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. J'en profite pour vous souhaiter à tous santé, bonheur et réussite tout au long de cette nouvelle année. Et parmi les bonheurs de la vie, il y a bien sûr ce que procure la musique quand on l'écoute ou quand on la joue. Pour ça, les occasions, les concerts ne vont pas manquer en 2019 et nous aurons le plaisir chaque semaine de vous les annoncer et de vous les présenter. Ça commence dès aujourd'hui avec les invités de cette émission, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tous les trois, nous accueillons les deux invités d'honneur de ce numéro. Deux musiciens qui forment un couple à la ville et à la scène, le plus souvent au sein d'un orchestre toulousain bien connu. Bienvenue aussi à Sandrine Tilly et Philippe Tribault, flûtistes et violoncellistes de l'Orchestre National du Capitole. Avec eux, nous allons parler du prochain concert de la saison bleue, mardi 8 janvier à l'auditorium du Musée des Abattoirs et du programme de la saison de l'association Gabriel Fauré à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Ce sera en seconde partie d'émission puisque dans les médias, nous allons revenir sur l'actualité musicale de la semaine passée lors de la première partie de ce numéro.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité musicale récente se résume à un seul événement, même s'il s'est répété lors de trois soirées successives. Je veux parler évidemment du concert du Nouvel An que l'Orchestre National du Capitole a donné à la Halle aux Grains dimanche, lundi et mardi. C'est le jeune chef américain Evan Rochester qui dirigeait l'ensemble symphonique toulousain. Et nous tous, dans ce studio, nous avons assisté ou participé à l'interprétation du programme de ce concert dans une salle quasi pleine dimanche et à guichet fermé lundi et mardi. Anne-Marie, Serge et moi, nous étions bien humblement dans le public. Sandrine Tilly et Philippe Tribault étaient, eux, dans l'orchestre. Alors, d'abord, Serge, est-ce que vous pouvez nous rappeler les œuvres qui ont été jouées ?
Alors, les concerts du Nouvel An, c'est souvent tellement traditionnel, avec du Strauss, Johann, évidemment. Mais là, si Johann Strauss Junior, Johann Strauss II, donc était un peu l'épine dorsale, là aussi, mais c'était un peu, comment dire, fragmenté et balisé par d'autres œuvres qui venaient en contraste ou en lien entre les œuvres de Johann Strauss. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. La structure du concert était vraiment très originale et très belle. En particulier, j'ai trouvé formidable qu'après le fameux Unterdonner und Blitz, c'est-à-dire sous les éclairs et le tonnerre qui pétaient dans tous les coins, c'était incroyable, il y a eu la valse triste de Sibelius. Ça, c'est formidable, c'est un contraste magnifique. Et tout ça enchaînant avec la Pizzicato Polka, qui est une œuvre magnifique et qui met à l'épreuve toutes les pépites de cordes pour que les pizzicates tombent exactement au bon endroit, au bon moment. Donc, c'était très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce concert, que j'ai trouvé très vivifiant, très vivant, avec Evan Rochester. Alors, Evan Rochester, il était déjà venu diriger l'orchestre pour Erlani de Verdi au Théâtre du Capitole. Il va revenir, d'ailleurs, au Théâtre du Capitole pour diriger Ariane Naxos de Richard Strauss. Donc, c'est quelqu'un qui commence à avoir des habitudes à Toulouse. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai appris qu'il était aussi tromboniste et qu'il avait une voix de baryton. Alors, je ne sais pas s'il continue à chanter.
continue à jouer du trombone. Au moins, c'est moment perdu pour le plaisir. Après, je ne sais pas s'il se produit en concert, mais...
En tout cas, c'est un chef très énergique, hein, et très vivant.
Et très grand.
Impressionnant. Oui, oui.
Il a vraiment le physique du nageur américain olympique, vous voyez.
Et qui se donne à fond. Oui. Donc c'était amusant, c'était vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, outre les Strauss-Johann, la suite de valse du Rosenkavalier, du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Alors, précision quand même à nos auditeurs que ces Strauss-là n'ont rien à voir. Ils ne sont pas parents, hein, donc Strauss est très courant, hein, dans les pays germaniques. Hein. Ça signifie bouquet, d'ailleurs, en allemand. Et donc, ces valses du Chevalier à la Rose étaient vraiment très, 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 très bien jouées. Très, très bien, avec une espèce de fougue, de vie, de vibration. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis, le concert s'est terminé par le beau Danube bleu, évidemment. Enfin, terminé, pas tout à fait. Oui. Puisqu'il y a eu,
Il y a une tradition qui est respectée à Toulouse comme à Vienne.
Mais oui, exactement. Donc, très, très bien. Un très beau moment et qui a été très apprécié du public, hein. Ça a été vraiment très ovationné. Je sais que les jours suivants, puisque le 31, le 1er, c'était également le même programme, ça a eu un énorme succès aussi. On m'a même dit que le fameux bis Alors bon, la marche de Radetzky, il faut le dire, hein, a été même donnée deux fois, je crois.
Pour ça, le public en général ne s'en lasse pas.
Eh oui, oui, parce que le public participe, alors il était content. Et, voilà. Ouais. Et puis il doit obéir aux recommandations du chef. On applaudit piano, puis on applaudit forte, donc tout ça c'est très vivant, très amusant.
Anne-Marie.
Ce concert du Nouvel An qui a été créé par Michel Plasson dans les années 90 et qui n'a cessé de monter en puissance puisqu'il est triplé maintenant, est devenu vraiment quelque chose de très ancré dans la vie musicale toulousaine et qui attire de plus en plus de public puisque cette fois-ci, à raison de plus de 2000 personnes, ça fait au moins plus de 6000 personnes qui ont assisté à ces concerts. Donc c'est vraiment devenu un moment très important pour terminer l'année et la commencer. Et les gens ne peuvent pas résister au plaisir d'écouter, certes, des valses de Vienne, de la tradition, Johann Strauss et autres, mais avec à chaque fois beaucoup de choses nouvelles par rapport au traditionnel concert du Nouvel An de Vienne. Toulouse sait se démarquer puisque cette fois-ci il y avait des œuvres très diverses, puisqu'il y avait aussi Tchaïkovski et son Casse-Noisette, Igor Stravinsky, l'Oiseau de Feu, il y avait aussi la suite du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, Manuel de Falla et sa danse rituelle du feu, la valse triste de Sibelius. Donc c'était pas un concert uniquement viennois avec les valses traditionnelles valses de Vienne. Pour l'orchestre, c'était aussi sur le plan même technique, il y avait des choses tellement différentes que c'était sérieux. Et les gens aussi, c'était pour le plaisir, puisqu'ils ont rappelé à chaque fois. Je crois que c'est vraiment une réussite.
Puisqu'on a la chance d'avoir deux des musiciens qui ont participé à l'interprétation de ce programme de Nouvel An, on va leur demander leur avis. Déjà, en tant que musicien, le concert de Nouvel An, pour vous, est-ce que c'est une petite récréation, quelque chose qu'on partage avec le public, avec les copains de l'orchestre, ou c'est quelque chose de très sérieux, avec souvent un nouveau chef chaque année, c'est rarement le même, d'une année sur l'autre. Voilà, comment vous le vivez, vous, l'un et l'autre, hein,
C'est un peu entre les deux. C'est ni un concert récréation, ni le concert le plus sérieux de l'année, forcément. C'est un concert qui reste festif, avec un répertoire, comme on dit, Serge et Anne-Marie, éclectique, plus éclectique qu'à Vienne, par exemple, où effectivement, il n'y a que du Strauss.
Bien évidemment, nous, c'est au front roi.
Donc, c'est vrai que quand on fait ce concert-là avec Tougansokiev, il y a des valses de Shostakovich, bon, ça reste de la musique... beaucoup de valses, effectivement, ou des polkas, etc. Enfin, la musique dansante, la musique festive, mais avec des compositeurs peut-être un petit peu plus d'horizons un peu plus divers. C'est vrai que le concert de cette année, le programme de cette année avec la suite de valses du Chevalier, on peut pas traiter ça à la légère, évidemment. C'est vrai que Unter den Hohen Blitz, c'est pas extrêmement difficile techniquement. Mais bon, faut être là, faut donner toute la pétillance à cette musique nécessaire. Mais c'est vrai que quand on arrive au Chevalier, et ben ma foi, faut être hyper concentré. C'est comme quand on joue à l'opéra, hein.
Sandrine.
Moi, j'ai beaucoup apprécié le parcours de danse qu'on nous a fait vivre pendant ce concert, parce que c'est vrai que c'est habituel de jouer des valses et des polkas pour le concert du Nouvel An, ce qu'on fait avec toujours beaucoup de plaisir. Parce que c'est traditionnel et c'est agréable de répéter une tradition, voilà. Mais le programme qui a été concocté par Evan Register, c'est un petit peu resté dans la danse en allant explorer d'autres danses. Il y avait la danse de Stravinsky, la danse du roi Katchei. Il y avait la danse de l'amour, la danse du feu dans l'amour sorcier. Donc en fait, on avait, comme Serge disait, donc cette épine dorsale de valse et de polka de Strauss, et on allait voir à droite à gauche d'autres danses, et c'est un programme très bien fait, je trouve vraiment très agréable.
Oui, et puis je voudrais souligner la qualité des solos. Il y a notamment un solo de flûte qui a été magnifiquement
parti déjà.
Je ne sais plus.
Une jeune femme, mais je ne vois pas très bien.
Que l'on voit assez souvent.
Il y a eu de très beaux solos de violon, de harpe, de violoncelle, de hautbois.
Le corps aussi.
Dans Richard Strauss,
oui,
les corps.
Ça permet aussi de mettre en valeur un peu les pupitres de l'orchestre.
Il y a même eu un solo de contrebasse. Et ça, c'est très rare.
Effectivement.
Il y a peu de solos de contrebasse. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on a deux magnifiques contrebassistes à l'orchestre. Et là, dans la suite du Chevalier à la Rose, il y a un solo de contrebasse, un solo de contrebasse assez long. Il faut tendre un tout petit peu l'oreille puisque la contrebasse n'est jamais très 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 sonore par rapport à d'autres instruments.
Mais c'est un instrument très impressionnant à la vue. Mais...
Et dans la suite de Strauss, le saut de contrebasse, dans l'opéra, je crois que c'est à la voix. Et là, c'est donné à la contrebasse. Et C'est un solo à moitié mélodique, à moitié humoristique. C'est vraiment très chouette. Donc, c'est notre collègue Pierre Ekek qui l'a joué et qui l'a joué.
Il était très applaudi.
Oui, il était très applaudi. Bah, il fallait parce que très souvent qu'on a la contrebasse à l'honneur et c'était l'occasion d'en profiter.
Oui, elle va l'être dans un concert avec la symphonie de Mahler.
Oui,
Donc, le fameux frère Jacques.
Un grand mois pour les contrebassistes.
Mineur bien connu. Oui. Le troisième mouvement de la première de Mahler.
Alors, je voulais aussi qu'on parle avec vous, bien sûr, de la direction d'Evan Rochester. Comment, du côté de l'orchestre, vous l'avez vécu. Moi, j'ai adoré la direction de ce chef.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est les nuances qu'il met, les ralentis.
Il arrête parfois de vivre la chose. Il a fait quelque chose avec des œuvres qu'on connaît tous.
Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est le rythme.
Oui.
Ça ferme, ce sens du rythme.
C'était un pied, c'était très intéressant. Alors, vous, la direction.
C'était très dynamique. Très dynamique. Et très agréable de travailler avec lui.
Oui, c'est fort sympathique.
C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, de très très gentil. C'est vrai que les répétitions sont passées dans une ambiance vraiment très très agréable. C'est quelqu'un de très très énergique, très dynamique. C'est une série qu'il est agréable de faire sans trop de stress. Malgré tout, on est tous en période festive. On a le droit, nous aussi, les musiciens, au réveillon, machin. Donc c'est bien d'avoir une ambiance assez sympa pendant ces répétitions. Et ça a été vraiment le cas. Et bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie.
Il est très souriant.
Il est très, très souriant.
Il est très expressif aussi dans sa direction que de son visage.
Tout à fait.
Très agréable. Alors, ces concerts du Nouvel An, vous allez continuer le programme, en tout cas, à le jouer dans la région. Là.
Mais dès ce soir, on part juste. On joue à Albi et aussi à Perpignan.
Perpignan aussi,
Donc on va porter ce programme dans notre région, et c'est bien parce que ça fait partie vraiment de la mission de l'orchestre. On a un bel orchestre. Il faut que l'orchestre sache sortir de la Halle au Grain pour jouer dans d'autres salles de la région, et c'est vraiment l'occasion, le concert du Nouvel An.
Il y a une belle salle, Albi, non ?
Absolument.
Oui, il y a une belle salle. C'est là qu'on avait enregistré l'émission télévisée Prodige il y a 3 ans.
C'est ça.
Et oui, c'est bien, c'est pas trop loin, il y a une belle salle, c'est joli.
Qui est très récente et qui est de la taille, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui connaissent le Théâtre de la Cité, ex-TNT à Toulouse, c'est vraiment sur le même modèle, c'est une salle de 900 places, ça fait une très grande scène, qui permet notamment de recevoir de grands orchestres symphoniques, comme l'Orchestre du Capitole. Et puis, comme il est de coutume à Vienne, mais aussi à Toulouse, Serge Chosy l'a rappelé, le concert du Nouvel An s'est achevé avec la marche de Radetzky. Alors nous allons nous aussi être fidèles à la tradition en proposant d'écouter maintenant la célèbre marche militaire de Johann Strauss père. C'est la version qu'avait interprétée l'Orchestre National du Capitole lors du concert du Nouvel An 2018, mais sous la direction de Tougan Sokiev.
La marche de Radetzky, évidemment, on tape dans les mains pour cette œuvre très connue de Johann Strausberg, interprétée par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev, en clôture du concert du Nouvel An 2018 à la Halle au Grain. Et nous allons nous aussi refermer cette année 2018 là-dessus pour nous consacrer désormais à l'actualité de 2019. Et pour commencer par celle de la semaine à venir, après l'habituelle petite pause d'une minute à l'issue de la première partie de cette émission, nous nous retrouverons pour la seconde partie avec Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzy et nos invités d'honneur Sandrine Tilly et Philippe Tribault. Restez bien notre écoute, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec nos deux invités d'honneur, Sandrine Tilly et Philippe Tribault, flûtistes et violoncellistes de l'Orchestre National du Capitole, également vice-présidente et président de l'association Gabriel Forêt.
Mélomanie. L'agenda.
Je vais laisser la parole à Sandrine Tilly et Philippe Tribault, mais ce sera dans quelques minutes puisque nous allons d'abord annoncer et présenter le prochain concert de la saison des Arts Renaissants. Il va avoir lieu mercredi 9 janvier à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est l'ensemble italien Accademia dell'Annunziata qui va s'y produire avec le grand violoniste Giuliano Carmignola. Le programme est intitulé « Un Italien à Londres ». C'est un peu trompeur parce qu'on n'y trouve qu'un seul compositeur italien au milieu de compositeurs allemands, aucun compositeur britannique à l'horizon. Bon, il y a quand même une raison à ce titre, bien sûr. Vous pouvez nous expliquer ça, Serge ?
C'était très courant. Londres était à l'époque un centre vraiment musical important. Handel, compositeur allemand, a fait toute sa carrière, sa carrière à Londres. Il a composé une flopée d'opéras, tous en italien. Donc, effectivement, c'était à Londres, mais lui qui était allemand composait en italien. Donc, c'est assez amusant. Et donc, c'est une ville cosmopolite qui accueillait énormément de compositeurs. D'ailleurs, parmi les compositeurs de ce concert, il y a deux des fils de Bach, Johann Christian Bach et puis Carl Philipp Emanuel.
Le plus célèbre.
Le plus célèbre de tous, évidemment. Donc, tous ces gens ont quelque chose à voir avec Londres. Hein. Et l'italien à Londres, en fait, c'est un compositeur que j'avoue, je ne connaissais pas et qui s'appelle Felice Giardini. Jardin en français.
Oui, donc, je ne connais pas non plus.
Voilà, c'était très bien. C'est l'occasion de découvrir un compositeur. Et puis, il y a un autre compositeur, alors, qu'on joue quelquefois, mais pas beaucoup, et qui s'appelle Carl Friedrich Abel, compositeur allemand.
Encore un nom.
Et donc, mais que l'orchestre de chambre a joué, notamment, il y a quelques temps, a joué des œuvres de lui. C'est un très, très beau compositeur, et c'est très bien d'avoir quelques œuvres et compositeurs peu connus autour des deux fils de Bach, qui eux sont quand même assez connus. Donc, je crois que c'est un beau programme, et avec un ensemble un peu particulier.
Oui, parce que là, ça va être des Italiens à Toulouse.
Exactement.
Ils sont tous Italiens. Exactement. Hein, pas milanais, hein, pour être précis.
Ah, tout à fait, oui. À commencer par Giuliano Carmignola, qui est un très grand violoniste, qui a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il a enregistré du Vivaldi. C'est devenu une espèce de référence pour Vivaldi. Alors, lui, grand soliste, musicien professionnel, il vient avec cet orchestre, qui est un orchestre professionnel, évidemment, Accademia dell'Annunziata, mais qui est composé de musiciens en cours de perfectionnement. Donc, c'est un peu un mélange entre musiciens accomplis, perfectionnés, célèbres, et puis des musiciens qui se forment en devenir. Donc, c'est très intéressant. Hein, et c'est un projet, cet ensemble-là, qui déclare être à caractère culturel et formatif. Et donc, ce sont un peu des expériences qu'ils pratiquent. Et donc, c'est une belle chose de recevoir cet orchestre. C'est quand même une vingtaine de musiciens.
Oui, c'est ça.
Viennent.
C'est pas un petit orchestre donc, de chambre.
Non. C'est
assez consistant.
Avec des bois, avec des... très bien. Je crois qu'on va découvrir des choses. Alors, on peut préciser qu'il y a à la fois des symphonies et des concertos. Alors, des symphonies, notamment Johann Christian Bach, qui est évidemment un peu une sorte de père de la symphonie avec Haydn, hein, et donc Carl-Philippe Emmanuel également, et puis ensuite pas mal de concertos, pour violon évidemment, avec donc Carmignola comme soliste, avec un concerto de Giardini, un concerto de Carl-Philippe Emmanuel, et puis une ouverture d'Abel, mais une ouverture à l'époque, ouverture, ça ne signifie pas ce que ça a signifié plus tard. Et c'était une ouverture en plusieurs mouvement, c'est un peu comme une symphonie quoi, à l'époque, une ouverture numéro 4, en l'occurrence de Carl Friedrich Abel. Donc voilà, un beau programme avec, comment dire, un fil conducteur sur une ville, Londres, et alors qu'il n'y a pas une seule musique anglaise.
Oui, c'est là que le titre pouvait paraître trompeur.
Mais en fait, vous avez très bien expliqué.
C'est une bonne idée. Pour vous faire découvrir ce jeune ensemble italien et Giuliano Carmignola, et pour vous donner un petit avant-goût du programme de ce concert qui s'annonce très alléchant, nous allons écouter un extrait d'un concerto de Felice Giardini, interprété par Giuliano Carmignola, accompagné par l'Accademia dell'Annunziata. Il s'agit du concerto opus 15, numéro 1. Un extrait du concerto opus 15 numéro 1 de Felice Giardini, interprété par Giuliano Carmignola, accompagné par l'Accademia dell'Annunziata. Et vous pourrez retrouver le grand violoniste et le jeune ensemble italien à Saint-Pierre-des-Cuisines mercredi 9 janvier à 20h30 lors du prochain concert de la saison des Arts Renaissants. Le prochain concert de la saison bleue a lieu lui la veille, mardi 8 janvier à 18h15 à l'auditorium du Musée des Abattoirs, et il va réunir le trio formé par l'altiste Violaine Desperoux, l'harpiste Valeria Kafelnikov et la flûtiste Sandrine Tilly ici présente. Nous allons parler du très intéressant programme de ce concert dans quelques instants avec vous, Sandrine. Mais avant cela, je vais vous demander de présenter vos deux camarades, parce que vous, la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, on vous connaît bien, on parle souvent de vous d'ailleurs dans cette émission, mais qui sont Violaine Desperoux et Valeria Kafelnikov. Alors la première, elle a un nom qui sonne bien de chez nous, j'allais dire. Elle est vraiment de chez nous.
Violaine Desperoux est vraiment de chez nous. Violaine Desperoux, en fait, est une altiste sensiblement plus jeune que moi. Ça fait partie de la toute jeune génération. Elle vient tout juste de finir ses études au Conservatoire supérieur de Paris. Mais avant, en effet, elle a fait toute sa scolarité, lycée et CRR, à Toulouse, dans la classe d'alto de Valérie à Paris, qui est donc une professeure renommée du conservatoire pour les petits altistes, qui a formé de nombreux jeunes altistes. Et donc Violaine a fait toute sa scolarité à Toulouse et ensuite est partie faire ses études supérieures à Paris et en Allemagne. Et je l'ai rencontrée un peu par hasard grâce à mon ami pianiste qui organise un festival. Nous avons joué ensemble avec Violaine, j'ai adoré jouer avec elle, et en plus je me suis rendu compte qu'elle venait de Toulouse, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'on fasse un jour un concert ensemble à Toulouse, puisque finalement, depuis qu'elle est partie pour faire ses études à Paris, elle n'a pas rejoué, disons, dans les grosses saisons de concerts toulousaines. Et donc voilà, on s'est retrouvés autour de ce projet, et on a convié donc Valeria Kafelnikov, qui est venue plusieurs fois remplacer à l'orchestre il y a quelques années, à l'orchestre du Capitole, qui est une superbe harpiste parisienne, mais qui a de bonnes attaches et beaucoup d'amis et beaucoup d'affection pour notre ville.
Alors parisienne, mais évidemment d'origine russe, le nom ne trompe pas. Alors s'il y a des passionnés de tennis qui nous écoutent, elle s'appelle Kafelnikov et effectivement, Philippe Tribault me l'a confirmé, c'est la nièce d'un tennisman célèbre.
C'est la nièce de
Yevgeny Kafelnikov, qui avait gagné deux tournois du Grand Chelem il y a quelques années.
Qui était présent à Roland-Garros de nombreuses années.
Les passionnés auront fait le lien, évidemment. On revient à la musique. Alors, cette année, il y a des cycles dans la saison bleue organisée par la Lacroix. Et vous, vous vous inscrivez dans le cycle qui s'appelle Nature. Votre trio va l'inaugurer en dehors de ce thème obligatoire. À la Lacroix, je crois, vous a donné complètement carte blanche. Donc, vous avez bâti votre programme à partir du thème qu'il vous a donné.
Oui, tout à fait. Bon, d'abord, j'en profite pour remercier Alain pour sa confiance et puis nous avoir proposé ce concert. Donc, en fait, il m'avait en effet proposé les différents thèmes de la saison et je lui avais dit nature, la flûte, la harpe, la sonate de Debussy. Ça devrait faire un beau concert. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit, en effet, de construire un programme autour de la sonate pour flûte, alto et harpe de Debussy. En elle-même, cette sonate pour flûte, alto et harpe évoque la nature. Même Debussy, dans son œuvre entièrement, évoque la nature.
L'impressionnisme, évidemment.
Même dans le titre de ses œuvres, puisqu'il y a quand même la mer, il y a plusieurs œuvres.
L'eau est très présente.
Donc, Debussy est vraiment le compositeur de la nature par excellence, je dirais. Donc, finalement, pour rentrer dans ce thème, il suffisait de jouer la sonate de Debussy. Après, comment bâtir un programme autour avec un trio flûte alto harpe, finalement, il n'y a pas beaucoup de répertoire. Mais il y a quand même des choses très belles. En particulier, nous avons choisi de jouer un trio de Takemitsu. Alors, n'ayez pas peur. Takemitsu, c'est vrai, c'est... On ne peut pas dire contemporain, ça a 30 ans maintenant. Mais ça sonne, ça peut faire peur. Mais c'est un compositeur extrêmement poétique, extrêmement impressionniste. C'est en effet un langage assez récent. Il a écrit en hommage à Debussy, ce trio, en hommage à la nature, en hommage au vent. Et c'est un compositeur qui est très proche des éléments et qui a écrit aussi beaucoup de musique de film, complètement dans un autre sujet. Mais...
Alors je crois que Serge Chosy voulait ajouter quelque chose.
Oui, et en plus, Sandrine Tilly est une habituée, elle connaît bien Takemitsu. Pendant le festival Passe ton bac, le 3 juin dernier, elle a joué une pièce pour flûte seule qui s'appelle Voice de Takemitsu, qui est une véritable découverte, d'une beauté magnifique, d'une poésie extraordinaire. Donc je suis vraiment, moi, en tout cas très heureux que ce trio soit au programme de ce concert, vraiment. Et Takemitsu, c'est un peu l'héritier de Debussy,
il le déclare
lui-même, hein, qu'il adore la musique de Debussy.
Beaucoup de musiciens japonais, qu'ils soient compositeurs ou autres, adorent Debussy, ils sont toujours influencés par Debussy.
Donc il y a un lien, hein, c'est un héritier un peu.
Et puis la nature est très présente dans la culture japonaise aussi, il faut le dire.
Donc ça avait un sens vraiment très fort de jouer du Takemitsu. Et cette pièce-là en particulier, donc écrite pour trio en hommage à Debussy.
Et qui est une petite merveille, rien pour ça, et ça vaut le coup d'y aller. Pas seulement, mais aussi pour ça.
Et puis cette pièce de Takemitsu est en fait inspirée d'un poème d'Emily Dickinson, une poétesse donc britannique, hein, dans lequel il est question de pluie, de vent, de sable. Donc c'est vraiment une pièce magnifique. Hein.
Alors, en dehors de Takemitsu, on a Debussy en français, on a un japonais Takemitsu, et puis il y a un russe.
Il y a un russe. Alors, je ne peux pas dire qu'on rentre complètement dans la thématique de la nature, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que musicalement, dans le fil du programme, cette pièce s'insère très bien, et que donc c'est une pièce pour alto seul, qui s'appelle Élégie de Stravinsky, Et la plus grande raison de la jouer, c'est que Violaine la joue très bien, elle avait envie de la jouer.
Et parfois, c'est un excellent argument.
Et parfois, c'est un argument, et que en composant le programme, je me dis, cette pièce va bien aller dans le programme. Voilà, donc en effet, c'est pas la peine de chercher un lien avec la nature, mais par contre, il y a un lien avec notre programme.
On peut imaginer la très belle nature qu'on trouve en Russie. Hein,
ça voilà, c'est pas interdit, façon, hein. Finalement, toutes les pièces musicales évoquent oui. un paysage.
Oui.
Un
ou
paysage,
les éléments. Voilà,
ouais. Donc, à chacun de faire son paysage,
sa rêverie.
Sa nature,
voilà, c'est celle à la rêverie que
procure. Après, on a choisi de jouer les pastorales d'André Jolivet. Ce sont quatre pièces qui n'ont pas vraiment à voir avec le style extrêmement puissant, presque âpre d'André Jolivet. Ce sont des pièces très jolies, en fait, simplement jolies, simplement en hommage à cette période des mages, les pastorales de Noël. Donc, c'est l'arrivée des mages, c'est leur rapport à la nature, la présentation de l'enfant, tout ça. C'est aussi simple que ça. C'est très beau, c'est très tonal, c'est quatre petits bijoux. Donc, autant en profiter d'être en trio flûte, alto et harpe pour les jouer.
On va continuer à parler du reste du programme, mais comme on entend assez rarement la musique d'André Jolivet, c'est vrai, c'est pas un compositeur qu'on entend très souvent en concert, ni même à la radio, on va en profiter pour écouter un extrait de ses pastorales de Noël. On va écouter le quatrième et dernier morceau intitulé « Entrée et danse des bergers ». Entrée et danse des bergers, quatrième et dernier morceau des pastorales de Noël d'André Jolivet. C'est donc une des œuvres au programme du concert que vous donnez Sandrine Tilly avec Violaine Despereaux et Valeria Kafelnikov le 8 janvier à l'auditorium du Musée des Abattoirs. Et puis alors il y a d'autres compositeurs au programme, au moins un autre pardon, c'est Camille Saint-Saëns.
Oui, tout à fait. Camille Saint-Saëns, un grand compositeur de musique française qui a composé avant Debussy, avant Jolivet. Il y a une très belle pièce au départ pour violon et harpe, donc la fantaisie, qui est vraiment une très très belle pièce. Donc on a choisi de jouer dans sa version pour flûte et harpe. C'est beaucoup plus romantique. C'est un mix impressionniste romantique, Saint-Saëns. C'est des très beaux thèmes, beaucoup d'expressions, mais quand même ça appelle déjà à l'univers impressionniste de Debussy.
Alors c'est vrai, je ne vous ai pas demandé de préciser. La plupart des œuvres que vous jouez ont-elles été composées à la base pour alto, flûte et harpe? Ou est-ce qu'il y a un certain nombre de transcriptions, si on peut dire, où l'alto ou la flûte viennent remplacer un autre instrument?
Alors, la base du répertoire, la pièce maîtresse du répertoire trio, flûte, alto et harpe, c'est la sonate de Debussy, qui a été composée en 1917, je crois, ou 15. Et je regarde Serge, là, il ne me dit pas. Mais je pense que c'est...
C'est le Debussy de la fin.
Elle a été créée pendant la guerre, ça c'est sûr. Et c'était apparemment pas simple, hein, puisque tous les hommes étaient au front. Donc, comme les femmes jouaient peu encore, voilà. Donc, la pièce maîtresse du répertoire de flûte, alto et harpe, c'est la sonate de Debussy. Il y a d'autres pièces. Il y a une pièce de la même époque de Arnold Bax. Il y a d'autres pièces qui ont été composées après, notamment la pièce de Takemitsu, parce que cette sonate de Debussy est non seulement un chef-d'œuvre pour la flûte, mais aussi pour la musique de chambre en général. Oui, c'est vraiment une pièce vraiment incroyable. Et donc, les compositeurs, jusqu'à maintenant, ont composé régulièrement des trios. Donc, on a deux œuvres originales, la pièce de Takemitsu et la pièce de Debussy. La pièce de Jolivet, c'est pas vraiment une transcription, mais c'est pas vraiment non plus écrit pour cette formation-là, puisque c'est écrit pour flûte ou violon, alto ou basson, et harpe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on garde la harpe. C'est une pièce avec des options, quoi. Donc, on a pris certaines options. Ensuite, on est passé beaucoup plus dans le domaine de la transcription, puisqu'on a choisi de ne pas jouer trop de pièces contemporaines. Donc, on voulait rester dans une musique plus 20e. Nous avons choisi la fantaisie de Saint-Saëns. Donc, c'est une transcription vraiment de la partie de violon à la flûte, avec certains aménagements de tessitures, de doubles cordes qui ne sont pas possibles à faire à la flûte. Par contre, la partie de harpe est totalement intacte. Et il y a une autre pièce dont on n'a pas encore parlé.
Et pas n'importe laquelle.
Pas n'importe laquelle. Il se trouve que Valeria Kafelnikov a fait elle-même, a osé faire une transcription du prélude à l'après-midi d'un faune, donc de Claude Debussy. Donc c'est une transcription extrêmement ambitieuse et extrêmement difficile pour la harpe. Je pense que d'ailleurs elle doit être la seule à pouvoir la jouer, sa transcription, puisqu'elle a fait, donc transcrit la partie quasiment tout l'orchestre à la harpe, avec la partie de flûte solo qui reste à la flûte solo, avec un peu plus de choses quand même à jouer. Donc là on est dans la transcription complète, c'est-à-dire qu'il y a la partie de flûte qui joue à la flûte, mais la flûte joue plus de choses qu'originalement dans la pièce orchestrale, et la harpe joue tout le reste. Donc c'est une transcription extrêmement élaborée et je crois extrêmement virtuose pour l'art.
Oui, et ce sera une découverte donc, puisque je ne pense pas que ça ait jamais été joué à Toulouse.
Ah bah je ne pense pas.
Probablement pas, vous avez... ça sera une création toulousaine, au moins toulousaine en tout cas. Alors on va l'écouter, ce prélude à l'après-midi d'un faune, avec vous à la flûte, mais avec votre... J'allais dire vieille copine, c'est pas tout à fait ça. Mais votre camarade depuis le Conservatoire de Paris,
ouais.
Anne Lebozec, merveilleuse pianiste. On écoute donc ce début du prélude à l'après-midi d'un faune.
Thank you.
Prélude à l'après-midi d'un faune, c'est une des autres œuvres au programme du concert que donnent Sandrine Tilly, Violaine Despérou et Valeria Kafelnikov mardi 8 janvier à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs dans le cadre de la saison bleue. Il y a aussi des pièces de Saint-Saëns, Jolivet, Stravinsky et Takemitsu dans ce programme que je conseille vivement d'aller découvrir. Et nous allons maintenant découvrir un autre programme, celui de la saison qu'organise l'association Gabriel Fauré à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Nous avons la chance d'avoir dans ce studio la vice-présidente de l'association Sandrine Tilly et son président Philippe Tribault, à qui je vais maintenant laisser la parole parce qu'il a peu eu l'occasion de s'exprimer dans cette émission jusqu'alors. Votre saison commence plus tard que d'habitude, mais il y a tout de même 4 concerts en 2019, de février à juin. Ça commence le jeudi 7 février avec un programme qui met à l'honneur un instrument et des musiciens que vous connaissez très bien, Philippe Tribault, puisqu'il va être joué par les 12-13 violoncellistes de l'Orchestre National du Capitole.
Ouais, 12 ou 13, on ne sait pas encore. Enfin, l'ensemble du pupitre, en
tout
cas.
On n'est pas superstitieux, de toute façon.
Non, on n'est pas superstitieux. Bon, on n'est pas superstitieux. Et plus on est, plus on rit. Donc, tout ira très bien. Voilà. Donc, oui, effectivement, notre saison commence plus tard que d'habitude. C'était une volonté un petit peu de la mairie et du calendrier. Et finalement, on a vu en fonction de nos calendriers respectifs aux uns et aux autres. Et donc, la saison va être un petit peu plus concentrée cette année. Donc, on va avoir 4 concerts, je dirais 4,5 en fait, puisque nous avons donc les 4 concerts de notre saison vraiment, donc effectivement qui commence le 7 février avec un concert de l'ensemble de violoncelle de l'Orchestre du Capitole. Donc, on sera 11, 12, 13, ça dépend un petit peu, bon, d'une part de la place sur scène.
Oui, aussi, parce qu'il faut les loger.
Parce
quand même,
qu'on prend de la place, mine de rien, on prend de la place.
C'est plus encore la flûte, c'est embêtant.
C'est un petit peu plus embêtant, il faut des chaises, il faut tout ça, c'est très très pénible. Très très pénible. Voilà. Mais bon, l'ensemble, à la base, il y a quelques années, on était 8, puis au fur et à mesure de l'agrandissement du pupitre, puis des gens qu'on recrutait à l'orchestre, etc., c'est maintenant la formation stable est de 12 violoncelles, voilà, comme à Berlin. Comme nos éminents collègues berlinois.
Oui. Alors, je précise que ce concert de tous les violoncellistes de l'Orchestre National du Capitole, et d'ailleurs, vous étiez 13 ce soir-là, a déjà été donné au Clé de Saint-Pierre.
Oui, mais pas avec le même programme exactement. Alors, à chaque fois, on change un petit peu le programme. Oui, tout à fait. Donc là, bien sûr, on évolue avec des... Comme pour le programme de Sandrine et Valeria... On alterne entre les pièces originales
et les transcriptions,
Bien entendu. Donc, c'est vrai que les pièces originales pour 12 violoncelles, il y en a.
Ça existe.
Villa-Lobos, Klengel, et plein d'autres. Et bien entendu, beaucoup, beaucoup de transcriptions qui nous permettent de proposer un programme où nous jouons des tangos de Piazzolla. On va aussi, pour rester dans le côté festif et dans le côté... un petit rappel des concerts du premier de l'an, on va aussi avoir le beau Danube bleu voilà. Et donc avec des arrangements que nous font
Christopher
Wolf,
le jeune retraité.
Le jeune retraité, voilà, notre
il est toujours actif.
Je pense qu'il sera encore plus actif maintenant qu'il récupère du temps
probablement.
Voilà. Donc il a fait une grande partie de nos arrangements. Et il continue à en faire, d'ailleurs. Donc, on a des tangos de Piazzolla, on a une pièce originale de Villa-Lobos, donc la première Bacchanas Brasileiras. On va jouer des extraits de Carmen, on va jouer une transcription de la méditation de Thaïs aussi. On va jouer, voilà, donc ça, ce sera le premier concert, donc le 7 février à 20h30 à l'espace Palumbo, donc à Saint-Jean. Ensuite, nous allons, si on prend chronologiquement, on va insérer un événement qui n'est pas dans notre saison, qui est en fait l'audition de la classe ou des classes de musique de chambre de l'ISDAC, donc de l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Voilà, donc nous allons accueillir dans notre saison. Voilà, donc ça, ce sera le 1er avril, en fin d'après-midi, vraisemblablement. L'horaire n'est pas encore vraiment calé, parce qu'il faut prévoir les répétitions, la mise en place de tous les instruments, les percussions, les pianos, etc., etc. Donc ça, c'est pas encore complètement verrouillé au niveau des horaires, mais ce sera donc le 1er avril. Voilà, le deuxième concert de notre saison, ce sera le 11 avril, donc toujours à 20h30 à l'espace Palumbo.
C'est là, toujours à 20h30 les concerts.
Voilà, toujours à 20h30 à l'espace Palumbo.
On ne va pas le préciser à chaque fois, c'est à 20h30.
Voilà. Et donc là, nous accueillons l'Orchestre de Chambre de Toulouse, que nous avons invité pour l'un de leurs concerts à la criée, donc à des concerts où... Finalement,
alors,
expliquez-nous
comment
choisit.
Ça fonctionne, ça, parce que ce concept de concert à la criée...
Alors, ça n'a rien à voir avec un marché aux poissons.
J'ai pas osé le dire, mais bon...
Mais c'est effectivement le public... Alors, moi, j'ai jamais assisté à cette programmation. Alors, curieusement, dans notre saison, nous allons avoir 2 concerts où le public
de ce
fait
type,
le programme.
Ouais, c'est le public qui décide
donc,
ce qu'il va jouer sur
là,
scène.
Là, en l'occurrence... Il y a, comme quand on arrive dans un grand restaurant, il y a une petite mise en bouche qui est offerte, plus ou moins offerte par le restaurateur en l'occurrence. Mais là, c'est donc les musiciens de l'orchestre de chambre qui savent ce qu'ils vont jouer pendant que le public prend le temps de regarder le programme, le menu, et voir. Donc il y a un certain nombre de choix pour les entrées, l'heure d'œuvre, les plats de résistance, les desserts, etc. Et donc, le public vote un petit peu, c'est une sorte de vote, où chacun va pouvoir s'exprimer de façon à composer le menu de la soirée.
Si je me demandais comment on recueille les votes, parce que ça doit être à la majorité, forcément, c'est à main levée,
c'est à main levée, je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est de venir à ce concert.
Oui, parce que c'est
à main levée, donc voilà.
Ça doit être assez spectaculaire.
Mais il y a des cris aussi.
Oui, ça doit être bon enfant, je suppose. Pas très
vite. C'est quelque chose qu'on avait fait, je me rappelle, avec mon éminent ami Philippe Monferrand, quand nous jouions beaucoup en sonate ensemble. Nous avions fait des concerts comme ça aussi, non pas à la criée, mais où alors nous on avait opté
c'est
pour un autre système.
C'est-à-dire
qu'on avait dans un chapeau à l'entrée de la salle de concert, d'accord, nous avions mis toutes les pièces que nous étions susceptibles de jouer, c'est-à-dire toutes les grandes sonates du répertoire.
C'était au sort.
Et c'était tiré au sort, absolument. Et la majorité c'est-à-dire que nous sommes arrivés pour le concert, nous ne savions pas ce que nous allons jouer. Voilà. Ce qui était à la fois assez excitant, mais bon, pas forcément hyper confortable.
Un peu stressant quand même.
Un petit peu stressant, mais bon, finalement, c'est assez rigolo. Et donc voilà, pour ce concert à la criée. Donc,
11 avril, donc jeudi. 11 avril.
Excusez-moi, je voudrais préciser que pour avoir assisté à plusieurs concerts à la criée de l'orchestre de chambre, ce qui est impressionnant, c'est la pile de partitions que les musiciens arrivent avec cette pile sous leurs bras et qu'ils posent sur leur pupitre, même en général à côté d'eux,
Ils ne savent pas non plus qu'ils vont jouer dans la soirée.
Non, mais ça, c'est impressionnant. C'est vraiment. Ça prouve qu'il faut un travail de préparation énorme. Hein.
Je me posais la question, est-ce que ça fait que le concert, du coup, est plus long?
Non. Non, puisque forcément, on met un cadre, il y a un certain nombre d'œuvres. Voilà, je pense que
les œuvres n'ont pas toutes, évidemment, la même durée suivant ce qui est tiré au sort.
Non, bien sûr. J'imagine que pour ces concerts-là, on va à peu près équilibré.
Vraiment, j'invite tous ceux qui n'ont jamais assisté au concert à la criée de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, aller justement le 11 avril, voir à quoi ça ressemble.
Voilà.
Il y a le plaisir de la musique, bien sûr, mais bon, il y a autre chose, un aspect très ludique.
Le spectacle est dans la salle aussi.
Voilà, absolument.
Alors, notre troisième concert, ce sera le 16 mai. Et là, ce sera un récital de piano solo qui sera donné par un jeune pianiste toulousain également d'origine, François Mosqueta, et qui est actuellement
au CNSM de Paris,
tout
dans la
fait.
Classe de Marie-Joseph Jude.
Voilà, qui est en train de terminer ses études. Hein, il est en master chez Marie-Joseph. Donc voilà, qui va venir nous faire un récital pour piano solo.
Alors nous, on le connaît avec Serge Chosy parce qu'on a eu l'occasion de l'entendre notamment à Musique au Palais, et puis dans la saison bleue parce qu'Alain Lacroix le suit depuis longtemps, bien sûr. Assez longtemps également. Et c'est un jeune pianiste très prometteur.
Très talentueux. C'est
un élément de plus à la gloire, on peut dire, de l'école toulousaine de piano. Toulouse voit l'éclosion de quelques années de grands pianistes.
Bertrand Chamaillou, Adam Laloum,
Nathanaël Gouin.
Ça fait quand même des.
On sait qu'il y en a d'autres qui
arrivent. Une belle pépinière de pianistes.
Oui.
Donc voilà. François nous communiquera son réel programme.
Carte blanche, là.
C'est carte blanche et en fait, son programme sera composé en fonction du programme du concours international qui passera peu de temps après. Donc,
ce qui est dans la période des concours.
Voilà. Donc, c'est pas encore complètement ficelé, mais voilà, on le saura.
Alors, justement, qu'on en profite pour l'écouter, François Mosqueta. On a écouté déjà Debussy, on va encore écouter Debussy. Je parlais tout à l'heure de Debussy, il y avait beaucoup de ses œuvres où l'eau était très présente par les sons ou carrément dans le titre. Alors, il y a une œuvre très connue qui s'appelle « Reflet dans l'eau ». Il se trouve que François Mosqueta aime la jouer, qu'il la joue très bien. Donc, on va l'écouter tout de suite. Thank you.
Voilà, donc je ne sais pas si François Moschetta a prévu de jouer Reflet dans l'eau de Claude Debussy lors de son concert du 16 mai à l'Espace Palumbo, mais c'est donc cette œuvre que j'avais choisi de vous faire écouter. Alors lui se produit le jeudi 16 mai à 20h30, François Moschetta. Et puis dernier concert de la saison de l'association Gabriel Fauré, là ce sera un mardi, c'est le 18 juin, toujours à 20h30 bien sûr,
tout à fait.
Le salon de musique
voilà.
Avec l'ensemble Faenza.
Alors l'ensemble Faenza, pour la petite histoire, c'est assez rigolo parce qu'en fait nous avons invité un vieil ami à moi, que je n'ai pas vu depuis 25 ou 30 ans, avec qui je faisais beaucoup de musique baroque quand nous étions des jeunes apprentis, des jeunes padawans de la
j'ai
musique.
J'ai cru que vous alliez nous dire avec qui nous faisions les 400 coups.
Oh, ça nous est arrivé aussi. Ça nous est arrivé aussi.
C'est à l'époque où
on faisait beaucoup de musique baroque. Alors lui a continué dans le baroque, alors que moi, bon, je me suis orienté. Je joue du violoncelle baroque aussi à l'occasion, mais bon, je me suis quand même orienté vers la discipline orchestrale. Et nous jouions à l'époque avec Hugo Rennes, qui est maintenant le directeur de la Symphonie du Marais, avec les frères Antaille, avec tous ces gens-là. Et Marco Horvat, lui était à l'époque guitariste, maintenant c'est l'un des grands spécialistes du théorbe, du luth, de l'archiluth, il chante, il joue de toutes les guitares baroques possibles et imaginables. Il a monté plusieurs spectacles, et notamment celui que nous accueillons là, ce salon de musique, qui est un spectacle interactif aussi, et qui se passe aussi un peu à la carte, mais vraiment au sens propre du terme, puisque il y a une notion théâtrale avec un jeu de tarot qui se passe en direct, et suivant les cartes de tarot qui vont être tirés par les gens du public, les œuvres jouées seront exprimées à ce moment-là. Donc c'est pareil, ils ne savent pas non plus quelles œuvres ils vont jouer exactement. Il y a un petit panaché. Et c'est un concert où les musiciens sont au centre. Pour ceux qui sont déjà venus à l'Espace Palumbo, qui est une petite salle de concert comme toutes les salles de concert, avec une scène, des gradins, etc. Là, en fait, les musiciens vont être placés au centre du public qui va être installé en rond sur des chaises de façon à ce que les gens du public puissent intervenir, aller venir tirer une carte, venir dire quelque chose, etc. Donc c'est un spectacle un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de proposer, donc avec deux artistes sur scène.
Mais il n'y a pas Madame Irma, il n'y a pas de diseuse de bonne aventure.
Il n'y a pas Madame Irma. Une fois de plus, je vous invite à venir en juger par vous-même.
Alors les musiques qu'ils vont jouer, ça ressemble à quoi?
Ça vient du répertoire baroque.
C'est vraiment du baroque.
Oui, ça, c'est du répertoire baroque. Marco chante également, il y a une chanteuse avec lui qui est comédienne. Donc je pense que c'est un très très joli spectacle qu'il faut venir voir.
Bon, on va laisser le secret nécessaire parce que ça fait partie du jeu, j'allais dire.
Tout à fait.
Alors, le temps a passé, il faut qu'on conclue cette émission. Grand merci à Anne-Marie Chouchan et à Serge Chosy de l'avoir animé à mes côtés et d'avoir été une nouvelle fois fidèle au rendez-vous. Et un grand merci, bien sûr, à nos deux invités, Sandrine Tilly et Philippe Tribault. La première est en concert avec Violaine Despérou et Valérie Kafelnikov mardi 8 janvier à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs. C'est dans le cadre de la saison bleue et vous pouvez vous renseigner et réserver vos places sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Et puis je rappelle que la saison de l'association Gabriel Fauré, présidée par Philippe Tribault, commence le jeudi 7 février à 20h30 à l'espace Palumbo de Saint-Jean avec le concert Violoncelle en scène, les 12-13 violoncellistes de l'Orchestre National du Capitole. Les autres concerts ont lieu le 11 avril avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, le concert La Criée, le 16 mai avec le jeune pianiste François Moschetta et donc le 18 juin avec l'ensemble Faenza. Tout le détail de la programmation et les réservations sont disponibles sur le site www.gabrielforet.fr. Je rappelle également le concert de l'Accademia dell'Annunziata et du violoniste Giuliano Carmignola, mercredi 9 janvier à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec leur programme Un Italien à Londres. C'est le troisième de la saison des Arts Renaissants et vous pouvez vous informer et réserver sur le site www.art-renaissant.fr. Et enfin, je signale aussi le concert donné ce samedi 5 janvier à 20h à l'église Saint-Exupère de Toulouse. Une seule œuvre au programme, le très beau et très célèbre Stabat Mater de Pergolèse, interprété par la soprano Déborah Salazar et la mezzo Nora Fodil. Elles sont accompagnées par l'organiste Clément Lanfranchi. L'entrée est à 5 euros seulement, alors profitez-en pour y aller. Tous mes remerciements à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h, ainsi que les samedis à 10h. Merci encore d'être fidèle à notre écoute. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et une excellente année musicale.